Hola, hola, amigos, et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante coproduit avec French Web. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur, peut-être résistant aujourd'hui. Je suis le Grigo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets calientes de la Silicon Valley. Cette semaine, une émission un peu spéciale puisque compte tenu des derniers événements survenus en Ukraine, j'ai décidé de modifier la programmation de Silicon Carnet. Jeudi dernier, nous n'avons pas publié l'épisode que nous avions prévu de diffuser sur le quantum computing après que la Russie ait décidé d'envahir l'Ukraine. Nous n'avions pas le cœur à cela. Certains des développeurs de ma nouvelle startup sont basés en Ukraine et j'ai passé les derniers jours à m'assurer qu'ils soient en sécurité et que nous puissions continuer à opérer. La semaine dernière devait être une semaine importante puisqu'elle devait coïncider avec le lancement de mon projet Uncut et des premières NFT Silicon Carnet. Nos développeurs en Ukraine ont codé jusqu'à la dernière minute et aujourd'hui le produit est disponible et fonctionne. D'ailleurs, c'est eux qui ont tenu à ce que malgré la situation, nous lancions la plateforme et ce projet prend une dimension toute particulière aujourd'hui puisque grâce à Uncut.fm, cette émission est disponible en intégralité sous forme de NFT. Vous pouvez donc en faire l'acquisition et l'intégralité des revenus de ces NFT seront reversés en Ethereum directement sur le wallet du gouvernement ukrainien. Comme quoi la crypto en temps de guerre c'est utile. Alors je savais en créant Uncut que les NFT permettraient aux podcasteurs de mobiliser leur communauté autour de leur émission préférée et de nourrir ensemble des projets, mais je pensais pas que ce serait le cas si rapidement et dans des conditions aussi dramatiques. Donc voilà, nous y sommes. Le NFT de cette émission est l'occasion pour la communauté de Silicon Carnet de ne pas simplement écouter mais de soutenir le peuple ukrainien directement. Il n'y a que 80 NFT, $50 chacun, et encore une fois les fonds sont directement versé à l'Ukraine et ne passe même pas par moi. C'est la magie du Web3. Je créerai aussi un groupe avec tous les participants à cette NFT. Donc rendez-vous sur www.uncut.fm pour collecter ce NFT un peu spécial dans votre Silicon Carnet Wallet et aider nos amis en Ukraine. Alors cette semaine, dans Silicon Carnet, je vous propose de parler du conflit ukrainien et de ses conséquences pour le monde de la tech. J'ai avec moi deux invités, deux amis qui connaissent bien le pays. Dominique Piotté et Yann Kronberg. Je vais commencer par toi, Dominique. Dominique, d'abord, je sais que tu vivais en Ukraine. Bienvenue dans Silicon Carnet. Est-ce que tu es où là?
Merci, Carlos. Moi, je suis arrivé à Barcelone, qui est une ville chère à ton cœur.
Donc, tu es en sécurité.
Voilà, et qui est une ville chère à mon cœur aussi. Je suis arrivé dimanche dernier, un peu last minute, avec une valise. J'ai donc quitté Kiev, où j'ai laissé toutes mes affaires, mais surtout mon équipe, mes amis, mon boulot, une grande partie de ma vie d'aujourd'hui. Et bah écoute, comme toi, j'espère que je rentre en résistance aujourd'hui.
Absolument. On rappelle ce que tu faisais en Ukraine. Hein. Tu étais, enfin, excuse-moi d'employer le passé d'ailleurs, c'est un peu révélateur, mais tu es le directeur de Unit City. Rappelle-nous ce qu'est Unit City et ce beau projet de Unit City en Ukraine.
Ouais, c'est un super projet qui a été monté par le Xavier Niel ukrainien qui s'appelle Vassil Khmelnytsky, mec qui a fait plutôt fortune dans l'immobilier et qui, comme Xavier, s'est dit le monde de la tech c'est formidable, c'est le futur de mon pays et donc je dois créer quelque chose qui ressemble beaucoup à Station F, qui est un peu une de nos aspirations. Hein. Donc, on a une école de code qui, d'ailleurs, a été utilisée les licences de l'école 42 qui s'appelle UCode, 1000 étudiants, et puis surtout un énorme campus dédié à l'innovation et aux entrepreneurs. Alors, on a un peu plus de place à Kiev. Station F, ça fait 35 000 carrés. Nous, on construit 1 million de mètres carrés. Sur 25 hectares, on aura 30 000 personnes qui travaillent et qui vivent à Unit City. On en est à peu près à 6 000 aujourd'hui. Et on a un campus aussi à Kharkiv, dont vous avez probablement entendu parler, puisque c'est la ville qui est la plus proche, la deuxième ville ukrainienne, la plus proche de la frontière avec la Russie, qui, au jour où je vous parle, n'est pas encore tombée, mais n'est pas loin de le faire, et nous avons déjà à peu près 600 personnes dans notre campus de Kharkiv.
Ok. Bon, écoutez, on va parler de la situation, de comment est-ce que ces gens vivent en ce moment le conflit. Mon deuxième invité, je le disais, c'est Yann Kronberg, lui aussi un ami, il est basé à San Francisco, mais une grande partie de son équipe et sa boîte est en Ukraine. Yann, bienvenue dans Silicon Carnet. Zasmik, c'est combien de personnes en Ukraine ?
Merci, bonjour. En Ukraine, on a 200 personnes. Moi, je bosse avec l'Ukraine depuis 2007. Ouais. En fait, j'ai commencé ma compagnie avec Yuri, qui est un ami ukrainien. Et puis, on est passé de deux personnes à 375 personnes aujourd'hui. On a 200 personnes en Ukraine.
Donc, pratiquement la moitié de tes effectifs sont en Ukraine. Donc, vous connaissez tous les deux bien l'Ukraine. Et je suppose que vous êtes bien évidemment dévastés par ce qui se passe en ce moment. Inutile de vous poser la question. Vous connaissez beaucoup de monde sur place. Ce sont vos collègues, ce sont vos amis. Est-ce que, Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils vous racontent ? Je suppose que vous êtes en contact avec eux au quotidien.
Ah bah oui, on est plus qu'au quotidien, hein, toutes les minutes, minute après minute. Ce qu'ils nous racontent, c'est différentes choses, en fait. Il y a ceux qui sont restés à Kiev. Moi, j'ai à peu près 60% de mes équipes qui sont restées à Kiev, qui sont aujourd'hui, qui vivent dans des garages, qui passent l'essentiel de leur journée sous les abris. Certains d'entre eux ont pris les armes. Mon CFO a pris les armes, mon CMO a pris les armes, ce qui me pose évidemment quelques difficultés logistiques, notamment pour mon CFO, parce que je sais plus très bien comment je vais payer les gens. Ce qui a été d'ailleurs la première chose que nous avons fait, hein, mercredi, les bombardements ont commencé à 4h30 du matin. À 5h30, je faisais la paye pour que les gens au moins aient du cash et puissent aller retirer du cash. Donc voilà, il faut qu'on s'organise. J'ai aussi une partie des équipes qui est partie à l'est.
À l'ouest.
Évidemment, à l'ouest, c'est moi qui suis à l'ouest, j'imagine, mais ils sont partis à l'ouest, vers Lviv, vers la frontière polonaise. Les hommes entre 16 et 60 ans ne peuvent pas quitter le pays, ils sont mobilisés, et donc c'est plutôt leurs épouses et leurs enfants qui passent la frontière polonaise. Et là, on a mis en place un réseau avec la French Tech, avec nos camarades de la French Tech, et bravo les copains, parce que vraiment, vous aidez vachement et c'est cool. Je suis président de la French Tech à Kiev, et tous mes potes présidents de French Tech aux frontières polonaises et tous les pays limitrophes aident à trouver des logements, filer de la bouffe, des endroits où bosser. Ça nous aide, c'est au cas par cas. Et puis sinon, la vie quotidienne, c'est tous les matins, on appelle tout le monde. Moi, je passe à peu près 40 coups de fil tous les matins pour m'assurer que les gens sont safe, les gens sont bien. Beaucoup de soutien psychologique, évidemment. S'assurer qu'ils ont à boire et à manger. Et s'assurer que leurs familles sont en sécurité. Bon, après Unit City, nous on est juste à côté à Kiev, on est juste à côté de la tour de télévision.
Ouais.
Donc j'espère que le pire ne va pas nous arriver, mais en fait je m'y attends. On a beaucoup de matériaux de construction puisqu'on est aussi un site de construction, donc nos équipes de construction coulent des blocs de béton sur les routes et essaient de bloquer les ponts pour éviter que les chars ne passent trop vite. Kiev est sous le siège, donc c'est une situation absolument ubuesque. J'imaginais jamais que je vivrais quelque chose comme ça dans ma vie. Je pense beaucoup à mon grand-père, en fait, qui a vécu l'occupation de Paris.
Ouais.
Et j'imagine que c'est les mêmes sentiments qu'ils ont eus à l'époque. Les sirènes qui retentissent, descendre sous les abris. On vit au monde d'aujourd'hui, au monde de la crypto, de la blockchain, de la métaverse. On est revenu dans le monde absolument réel de la moitié du 20e siècle, et c'est terrible, cette régression.
Ouais. Yann, de ton côté, je suppose que c'est à peu près la même situation. Tu parles avec tes équipes tous les jours et qu'est-ce qu'ils te disent?
Nous, on est fully remote depuis 2012. Donc on n'est pas concentré dans un endroit, ça avait pas mal aidé ça, même si on a 80 personnes à Dnipro, qui est au centre du pays. Dnipro, c'est une ville en fait qui n'a pas été touchée par la guerre encore, c'est plutôt Kharkov et Kiev. Mais je passe tous mes matins à pleurer pendant une demi-heure, quand je vois tous les messages que j'ai, j'arrive même pas à m'empêcher. Et ça me prend en général 10 minutes pour me remettre. Et puis après, c'est action mode. Parce que autrement, je passerais ma journée à pleurer. C'est des gens, c'est des amis, il y a des gens que je connais depuis 8-9 ans qui travaillent pour moi là-bas. Mais nous, on est assez organisé depuis un moment pour aider les gens à bouger à l'ouest. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est un sujet que tu veux tacler bientôt, mais nous, ça fait depuis décembre qu'on dit aux gens de bouger.
Ouais, en préparant cette émission, tu me disais que tu avais donné le message à tes équipes de déménager, quoi, grosso modo, à l'ouest depuis décembre. Qu'est-ce qui t'avait fait dire ça?
Bah, moi, je suis un avide lecteur de World War II, de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout un étudiant du Troisième Reich et de la personnalité d'Adolf Hitler. Et quand j'écoutais parler Poutine, qui avait un template du nazisme pour acquérir les Sudètes et pour justifier ses annexions, parce que les gens parlaient l'allemand et de parler comme le peuple ukrainien, comme c'était un peuple sans État. C'est exactement ce que les Allemands faisaient aux autres pays autour d'eux, incluant la Pologne. Et là, ça a fait tilt. J'ai forcé mes cadres à bouger. D'ailleurs, j'ai une poignée de gens qui sont partis en Autriche. Et tu vois, j'ai forcé des gens clés à partir en Turquie, etc. Ils veulent pas partir, les gens. Mais tu vois, je pensais pas que j'aurais raison. Je me suis dit, tiens, je vais dépenser un peu d'argent et je vais leur faire passer des moments en Égypte, en Turquie, partout, et en Géorgie aussi. Et là, ils y sont toujours. Voilà. Inside 2020, je pensais pas avoir raison, mais le caractère de Poutine faisant qu'il a des ressemblances avec les fins de règne de Hitler dans son bunker.
Ouais. Voilà. Dominique, de ton côté, toi, je me rappelle, il y a encore 15 jours ou à peine, on discutait ensemble et t'avais un message qui était pas du tout celui-là, qui était un message beaucoup plus rassurant en disant « Non, moi je reste et puis le mot d'ordre c'est… tout va bien se passer. »
Ouais. Et c'est très intéressant, et c'est évidemment très intéressant ce que tu dis, Yann. Moi, j'ai été pris entre deux messages paradoxaux. Le premier, j'ai aussi un passeport américain, donc j'ai écouté ce que disait l'ambassade des États-Unis. Le premier était le message américain qui est « Écoutez, on a l'intelligence ». Et l'intelligence nous dit voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se passer.
L'intelligence au sens américain du terme. Hein.
Oui, l'intelligence, oui.
L'information.
Voilà, on a l'information. Voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se passer, voilà à quelle date ça va se passer. Et évidemment, c'est ce qui s'est avéré exact quasiment au jour près, hein, en fait. Et puis, de l'autre côté, j'avais à la fois mon actionnaire principal et les autorités françaises qui nous passaient le message opposé. Alors, mon actionnaire principal, c'était... ça n'arrivera jamais et je te garantis à 100% que ça n'arrivera jamais et l'ambassade de France et les autorités françaises qui nous disaient non pas maintenant, les Américains exagèrent. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé mon mari et mon fils de retour à San Francisco mi-janvier, mais moi j'avais décidé de rester. Je voulais rester près de mes équipes puisque le mot d'ordre en interne c'était on change rien. Et le paradoxe, le truc qui est absolument dingue, hein, la semaine dernière j'étais avec mon patron en Israël et à Dubaï. Et je lui ai demandé, juste avant de partir, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'embête si je vais ensuite, moi, passer quelques jours à Barcelone, parce que je le sens pas. Et l'ambassade américaine nous dit, ah les gars, maintenant, faut partir. Il me dit, écoute, je te redis que 100% de chance, il va rien se passer, mais va passer une semaine, si ça te rassure. Et puis, en revanche, je te demande, toutes les semaines, on fait un check-up, enfin un check-in. Je suis parti dimanche. Dimanche, la guerre a commencé mercredi, hein. Je suis parti dimanche, on a fait la fête samedi soir à Dubaï avec tous les CEO de la holding company. Tout le monde s'est dit, ouais, salut, on se revoit lundi, tout va bien, pas de problème. Et mercredi, la guerre commence. Et donc, si tu veux, je pense que beaucoup d'Ukrainiens ont été dans une espèce d'aveuglement total, de déni de réalité, de refus de voir, de refus aussi probablement de se préparer et de refus d'écouter des messages que toi, Yann, tu as en compté.
Yann, de ton côté, tu voulais réagir à ce qu'est en train de dire Dominique ?
Tu sais, sur la liste des gens surpris, ajoute l'Occident, l'Ouest, les Allemands, les Français, Et puis tous les gens qui essayent d'apaiser Poutine depuis tant d'années. Je veux dire, après, t'as un côté, t'as un aspect politique qui fait que, ou géopolitique, qui, tu sais, je me demande ce qui va se passer quand Poutine va être acculé et qu'il ne va plus pouvoir payer ses troupes parce qu'il ne peut pas toucher à son trésor de guerre. C'est un risque, t'as vraiment un risque de guerre nucléaire.
Bah, c'est la menace qui pèse aujourd'hui, hein, visiblement. Bon, on n'est pas CNN, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur justement cette scène tech locale. Comment est-ce qu'elle se mobilise ? Bon, alors maintenant, l'effet de surprise, il est passé, hein, on est d'accord. Tout le monde a bien compris qu'il s'agissait d'une invasion et que la Russie avait décidé d'annexer l'Ukraine, hein, quoi, visiblement. La scène tech locale qui est... assez forte, hein, puisque l'Ukraine est devenue un hub technologique très important en Europe de l'Est. Comment elle se mobilise aujourd'hui, Dominique, pour faire face à la situation ?
Deux choses. Alors, bon, d'abord, je ne suis pas sûr que l'effet de surprise soit passé, hein, parce qu'en fait, on est en plein dedans. Et donc, la préoccupation première des gens, c'est est-ce que je suis safe ? Est-ce que je peux sortir ? Est-ce que j'ai à bouffer ? Donc, tu vois, le premier niveau de la pyramide de Maslow, c'est on est revenu au super, super basique. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose... c'est la Centec, elle se mobilise de deux façons. La première, c'est que y a beaucoup d'hommes qui prennent les armes. Et donc, peu importe qu'ils soient dans la tech ou pas, ils ont envie de défendre leur pays et prennent les armes. La deuxième chose, c'est qu'il y a une armée IT qui s'est montée. Et donc, moi, j'ai beaucoup de copains dans la tech qui s'engagent dans l'armée IT, qui sont des développeurs et qui partent hacker. Et qui partent aider le gouvernement ukrainien à hacker. Il y a une spécificité de ce gouvernement ukrainien, je pense qu'on la connaît pas assez, mais le numéro 3 du gouvernement, le vice-premier ministre, qui s'appelle Mikhailo Fedorov, donc il est numéro 3 du gouvernement, c'est le patron du digital, c'est notre Cédric O. Ouais, mais sauf que tu imagines, Cédric O, qui est un type superbe, mais qui est sous-secrétaire d'État, j'exagère, mais qui est à la fin du protocole gouvernemental. Nous, c'est le contraire. Le gars, c'est le numéro 3, il a le statut de vice-premier ministre. Et c'est un jeune gars, 35 ans, qui vient du monde des startups, qui a une boîte, qui comprend très bien le digital. Et la première chose qu'il a fait, c'est monter une armée de hackers. Et en gros, le gars, c'est ça qu'il fait. Et d'ailleurs, vous allez sur Facebook, il célèbre ses victoires. Il a réussi à hacker la bourse russe ce matin. Et ce matin, sur son Facebook, il célébrait sa victoire avec le screenshot de la bourse russe down. Donc,
la télé donc, russe également a été hackée, visiblement, puisque à plusieurs reprises, ils sont arrivés à diffuser des messages ukrainiens à la télé russe, où on sait qu'en Russie, il y a une véritable propagande qui se joue.
C'est clair.
Et donc, ça, c'est important. Donc, c'est intéressant ce que tu dis là. Ça veut dire que la guerre, elle n'est pas simplement physique. Tu disais, on revient à des choses très réelles, mais malgré tout, la technologie, elle est omniprésente. Il y a des cyberattaques russes sur le territoire ukrainien qui, visiblement, ont été préparées depuis des mois, et une contre-attaque ukrainienne, ce que tu es en train de dire. Donc la guerre, elle est aussi dans le métaverse, hein, quelque part.
Ah, elle est clairement dans le métaverse. Elle est clairement aussi cyber, et je pense que les Ukrainiens ont très bien compris. Et d'ailleurs, je pense que l'histoire nous le dira, mais je pense que les Ukrainiens sont très forts, et peut-être même plus forts que les Russes. Et je pense, d'ailleurs, que plus la guerre va avancer, plus les hackers d'un côté et de l'autre, parce que, ne nous trompons pas, les hackers du côté russe, ils sont de catégorie, hein. Ils sont les hackers du gouvernement qui sont brainwashés, ok, et puis il y a les hackers en général. Ces hackers-là, ils ont accès à l'information, ils savent ce qui se passe. Et un des enjeux pour moi, c'est de faire basculer de notre côté ces hackers russes-là qui sont aussi très bons et qui vont commencer à trouver que la qualité de la vie en Russie est de moins en moins bonne, que tout devient plus cher, que Poutine n'est pas forcément génial. N'oublions pas que le hacker n'est pas qu'un black hacker, c'est pas que les black hats, c'est aussi les white hats. Il y a une éthique du hacker. Le hacker, il est aussi pour la liberté. Et ça, c'est aussi, moi, de mon côté, un de mes espoirs. La deuxième chose, c'est qu'une des choses qu'a fait Mikhailo Fedorov et son gouvernement, c'est de créer des NFT. Ils ont levé 17 millions de dollars en 2 jours en créant le NFT du gouvernement ukrainien pour la guerre. C'est quand même génial. C'est la première fois au monde qu'on a une guerre qui aussi se finance en crypto avec des NFT. 17 millions de dollars en 2 jours.
La preuve en est cette émission, puisqu'on utilise le wallet officiel du gouvernement ukrainien, ouais, monté justement par ce fameux Fedorov qu'on trouve sur Twitter. Et l'intégralité des revenus de ce NFT, de cette émission, sont versés. C'est vachement intéressant, ça, ce que tu es en train de dire.
C'est fabuleux.
C'est fabuleux, c'est-à-dire qu'on n'est plus tributaire simplement de la mobilisation des États-nations ou de certaines organisations, certes non gouvernementales. Les individus peuvent se mobiliser eux-mêmes et faire acte eux-mêmes et transférer des fonds eux-mêmes et de mobiliser des fonds par eux-mêmes grâce aux cryptos et grâce au Web3, effectivement.
Mais Carlos, c'est bien plus fort que ça, en fait, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est l'affrontement de deux mondes et de deux générations. D'un côté, t'as un Vladimir Poutine qui sait probablement même pas servir d'un ordinateur, qui a pas de téléphone, qui n'utilise pas les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, t'as un gouvernement ukrainien avec un président qui a 40 ans, un numéro 3 qui a 35 ans, et qui a immédiatement compris qui pouvaient aussi utiliser les outils du digital comme des outils de guerre. C'est évident qu'ils n'ont pas la force sur le terrain. Mais en revanche, cette nouvelle génération avec, je te dis, ce président de 40 ans qui nous étonne tous, que je connais bien, que j'ai rencontré plein de fois, qui était un comédien, qui jouait dans une série, le rôle qui joue dans la vraie vie.
Le rôle du président.
Oui, c'est un truc de dingue.
Et qui se retrouve aujourd'hui en tant que président.
Voilà. Eh ben, le gars, il a tout compris au digital, il embrasse le digital, il a compris que c'est l'avenir de son pays et il dit à son vice-premier ministre, ben vas-y, mène la guerre digitale et utilise tous les outils, y compris la crypto, y compris les NFT. Et ça, moi, personnellement, je suis bluffé. C'est pas simplement le combat des dictateurs contre la liberté, c'est aussi le combat d'un vieux monde contre un nouveau monde. Et pour moi, c'est ce que j'aime dans l'Ukraine. C'est ce que j'adore, c'est ce que j'embrasse dans l'Ukraine. C'est ce côté d'amour de la liberté et de on y va, on crée, on monte. C'est aussi cet esprit de Silicon Valley d'une certaine façon.
Absolument. Yann, l'Ukraine, tu la connais bien, elle a cette soif d'appartenir à ce nouveau monde et elle maîtrise les outils de ce nouveau monde, elle a complètement compris ça. C'est vrai que aujourd'hui, la mobilisation dans les médias sociaux, elle est totale, quoi, en fait. Et c'est, on a les images, comme tu disais, on a tout, quoi.
Ouais, bah, c'est une société qui s'est modernisée de manière très rapide au cours des 15 dernières années. Moi, je suis toujours épaté. À chaque fois que je reviens, c'est un pays qui devient de plus en plus riche, moi aussi, qui s'est, au-delà de se moderniser. Nous, on est aussi actifs dans ce qu'ils appellent la guerre IT. Je ne peux pas trop en parler, parce que je n'ai pas envie de mettre mes gars en qu'ils aient des problèmes, mais on est très, très actifs. Ça, c'est un truc où je pense que ça a donné une sorte de soupape à nos ingénieurs. Ils ont quelque chose sur quoi où ils peuvent en fait contribuer de manière significante au-delà de lancer des bombes sur des gens. Mais c'est un pays qui s'est vraiment modernisé. C'est un pays qui veut faire partie de l'Union européenne, etc., etc. Donc c'est vraiment un pays qui nous ressent. S'il faut que tu te battes, c'est pour sauver ce pays et les directions dans laquelle ils vont.
Tu sais, Dominique, ce pays me fait penser à un autre pays que toi et moi on connaît très bien. C'est l'Espagne qui s'est modernisée. J'en ai presque les larmes aux yeux quand je parle, mais qui est sortie finalement de ce fascisme, tu vois, et qui a su se moderniser ultra rapidement. Et peut-être que le problème, c'est ça aujourd'hui, l'Ukraine. C'est un pays qui montre une face juste à côté du géant russe, qui est insupportable finalement pour Poutine, et je dis bien pour Poutine et pas forcément pour la Russie dans son ensemble, mais c'est justement cette face, ce président moderne, jeune, ce refus de se soumettre à une propagande, cette volonté de modernité, cette volonté de, euh, de lutter quoi, en fait, contre une forme d'obscurantisme. Ça me rappelle beaucoup l'Espagne des années 80, quoi, en fait, hein, ça.
Ah bah, je pense, Carlos, que t'as complètement raison. Et je sais bien aussi pourquoi j'aime à la fois tant San Francisco, tant Barcelone et tant Kiev. Parce que c'est aussi une question d'énergie.
Population très jeune aussi, pareil.
Voilà, population très jeune, population qui a envie de s'en sortir, population qui a envie d'inventer un nouveau monde, qui n'accepte pas nécessairement le monde existant et qui utilise du coup les outils digitaux comme ce qu'ils sont, des outils d'invention d'un monde nouveau. Et c'est aussi ça, pour ça que je crois que nous tous, on est passionnés d'innovation et qu'on est passionnés de nos métiers. C'est parce que voilà, pour inventer le monde nouveau, qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'il nous fasse chier ou pas chier, c'est quand même là que ça se passe. Et moi, c'est ça que j'aime avec l'Ukraine, je crois, c'est que ce sentiment d'être, quand j'y étais, jusqu'à la semaine dernière, au bon endroit, au bon moment. Et je pense, une des choses qui me fend le cœur, c'est évidemment de voir que cette espèce de mastodonte...
médiéval, pratiquement. Hein.
Oui, médiéval, au vu rétrograde, qui visiblement ne supporte pas le progrès et ne supporte pas, la fin de l'Empire russe et veut recréer son empire à tout prix. Alors que, ne nous y trompons pas, hein, la Russie, on parlait de l'Espagne, ben la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. La Russie est devenue un petit pays économiquement, un pays qui pèse peu dans le monde. Et voilà ce Don Quichotte qui veut récupérer l'Ukraine. Comme c'est pathétique.
Voilà, on parle cette semaine, c'est une émission un peu spéciale qui a été montée au dernier moment. Je suis en compagnie de Yann Kronberg, le patron de Zazmik, et de Dominique Pioté, qui est le patron de Unicity à Kiev et à Kharkiv aussi, en Ukraine. Et on parle de la situation en Ukraine, mais surtout de comment est-ce que la tech se mobilise. On a beaucoup parlé de comment est-ce que la tech se mobilisait, la scène tech locale en Ukraine. Et on va parler dans la deuxième partie de cette émission de comment la tech mondiale se mobilise face au conflit ukrainien. Si vous appréciez Silicon Carnet, il y a un truc à faire vraiment très important cette semaine, c'est d'acheter le NFT de cette émission, puisque l'intégralité des fonds, et je dis bien l'intégralité, 100% des fonds de ce NFT sont reversés sur le crypto wallet du gouvernement ukrainien. Et donc voilà, c'est pour la bonne cause. Il y a 80 NFT, on va réunir 4 000 $. Ça compte, 4 000 $, c'est beaucoup d'argent et ça va directement au peuple ukrainien. Donc allez-y, n'hésitez pas, ça se passe sur uncut.fm, www.uncut.fm. Alors, on a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission de la situation en Ukraine et comment la scène tech locale se mobilisait face au conflit. Et on a vu l'importance de la guerre, non seulement sur le terrain, mais aussi online. Et la guerre cyber, elle est réelle. Tu me disais tout à l'heure, Dominique, que tu étais au téléphone avec Cédric O en France. Quel a été ton message justement sur ce point à Cédric O?
Faut y aller. C'est là qu'elle se fait la guerre. Je veux dire, c'est génial d'envoyer des armes à l'Ukraine, mais il faut que le gouvernement français, par des moyens que nous ne voulons pas connaître et que nous ne devrions pas connaître, se mette au travail, parce que on n'a pas besoin.
Mais qu'est-ce qu'il peut faire?
Tu sais, je suis à peu près sûr que les gens de la DGSE, vers la caserne Mortier ou ailleurs, des endroits que nous ne connaissons pas, savent très bien mener des cyberguerres aussi. J'ai cru entendre que le ministère de la Défense, dirigé par Florence Parly, avait beaucoup investi d'ailleurs sur les sujets de cyberguerre. La cyberguerre, elle a plein d'avantages. Elle est discrète. Si elle est bien faite, elle laisse pas trop de traces. Et à mon avis, elle est aujourd'hui aussi efficace que des armes. Là encore, je pense qu'elle doit rester discrète, donc on ne saura pas, et puis je ne sais pas. Mais voilà, moi je pense qu'il faut y aller à fond. C'est génial les sanctions, mais il n'y a pas que les sanctions, il y a aussi les actions.
Yann, de ton côté, la France, elle doit intervenir et passer à l'attaque sur le cyber?
Sur le cyber, oui. Mon opinion, c'est que la cyberguerre, ça reste quand même quelque chose qui est plus périphérique. Évidemment, la première chose, ça reste les armes. Je pense qu'il n'y a pas de cyberguerre sans des armes qui sont apportés à l'Ukraine.
Conventionnels ?
Ah oui, ça c'est sûr. Parce que là, d'ailleurs, moi, quand j'écoute mes gars en Ukraine, c'est où est la France, où est l'Europe, où est l'Allemagne, surtout l'Allemagne, hein. Où sont les aides, où sont les armes ? Je veux dire, la cyberguerre, c'est important, hein, mais ça combat des choses comme la propagande, ça...
C'est important, hein ?
C'est important, mais c'est dans l'ordre des importances, t'as les armes, deuxième, t'as les sanctions, troisième, t'as la cyberguerre.
Justement, quand tu parles de l'impatience aussi des Ukrainiens, quand je parlais avec mes équipes, ils me disaient un peu la même chose, ils me disaient « mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi ?» Grosso modo, c'était à peu près ça le message. Plus poliment. Et j'ai essayé d'expliquer aussi à mes équipes que nous sommes des nations démocratiques, dans le sens où, effectivement, on ne prend pas des décisions comme Poutine. C'est-à-dire que les choses, elles prennent effectivement du temps. Et je rassurais aussi mes équipes en leur disant, un, l'opinion est avec vous. Ça, c'est évident. Et d'abord, les États ont besoin de comprendre si c'est le cas. Et ensuite, il y a un processus démocratique. Les choses, et malheureusement, c'est vrai, ces choses-là, elles prennent du temps. Macron ne peut pas décider tout seul d'envoyer des armes aux Ukrainiens. Bon, visiblement, les décisions, elles ont été prises. Et maintenant, le soutien, que ce soit en armes, ou en autre chose, il est en chemin, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre. Je comprends aussi hein, que ça prenne un peu plus de temps, mais c'était il y a à peine une semaine, Dominique. T'es pas d'accord complètement avec ça ?
Je suis d'accord, mais je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que là encore, si on avait écouté l'intelligence américaine, qui s'est avérée quand même exacte. C'est pas maintenant qu'il fallait fallait envoyer les armes. C'est il y a un mois. Si tu veux, là on envoie des armes. Aujourd'hui, on peut pas rentrer en Ukraine, donc les armes arrivent à la frontière. Ensuite, il faut que les Ukrainiens les récupèrent à la frontière et les acheminent comme ils le peuvent. Moi, mes équipes de Kharkiv me disaient que il y avait des armes qui étaient arrivées ce matin. Bon, voilà. Enfin, si tu veux, la ville elle est quasiment prise. Et donc on a raté le rendez-vous. Ça c'est clair, et même avec les sanctions, si tu veux, on prend des sanctions de façon extrêmement graduée, de façon extrêmement là je suis quand même très d'accord avec Yann, c'est les Américains sont un peu spectateurs, mais nous avaient annoncé le film. Les Européens, qui auraient pu être des acteurs du film, ont plutôt mis vachement de temps à rentrer dans le film, quoi. C'est vrai que sur le terrain, les gens, tu as raison Yann, ils ont d'abord besoin d'armes. Je suis assez d'accord, évidemment.
Yann, on a réagi trop tard, encore une fois.
L'apaisement 1938, c'est ce qui revient à chaque fois. Si tu étudies la Deuxième Guerre mondiale, tu sais exactement, tu laisses les pays qui sont sous le joug de Hitler se faire envahir, et puis tu laisses tout faire, tu te bats pas. Heureusement qu'on a un pays comme l'Ukraine qui se bat comme des mâles de chien. Tu vois, ils sont incroyables. Et l'équipement qui les fait tenir, c'est les missiles anti-défense, les javelines, qui ont été envoyés par les Américains, alors que les Allemands ont envoyé des casques, 5000 casques.
Ouais, non, c'était ridicule. Bon, là, apparemment, ils ont changé un peu leur posture. Mais c'est vrai, vous avez raison, quand vous faites le parallèle avec 1938, qu'on a l'impression que Macron, il a ressemblé un petit peu à Chamberlain hein, dans l'histoire, hein, qu'en fait, c'est un des derniers à avoir été voir le monstre. Et ça nous rappelle effectivement énormément le Premier ministre anglais et sa visite à Hitler à Munich. D'ailleurs, un super film sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai eu le malheur de re-regarder Stalingrad ce week-end. En fait, je ne suis pas certain que c'était une bonne idée.
Non, pas vraiment.
Mais je vous invite à voir le film sur... je ne sais plus, je cherche le nom là, sur les accords de Munich de 1938 avec Chamberlain. Et ça rappelle un petit peu la visite de Macron à Poutine. Je le disais, la tech internationale, elle se mobilise. Il y a des choses très intéressantes à observer ces derniers jours. Jeudi, par exemple, le chef de l'agence spatiale russe, jeudi dernier, donc au moment des attaques, a menacé les pays rivaux en posant notamment une question sur Twitter. Qui sauvera l'ISS, la station internationale, d'une désorbitation incontrôlée et d'une chute sur les États-Unis ou l'Europe ? Non, mais on voit bien que les mecs sont complètement, j'allais dire à l'ouest, mais ils sont dans un délire absolument incroyable. Bah, qui a répondu à ça ? Elon Musk, il a répondu, il a dit, bah moi, moi je fais. Et tu parlais tout à l'heure de Mikhailo Fedorov. Il a tweeté à Elon et il lui a demandé de fournir le service Starlink, qui est ce service de satellite de surveillance. Il a demandé et Elon a répondu en moins de 11 heures et il a mis à disposition le service Starlink pour les Ukrainiens. Ce qui est assez incroyable parce que là, encore une fois, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, Dominique. Les individus, parce que c'est un citoyen, Elon Musk, se mobilisent d'eux-mêmes et mettent la technologie, que ce soit la crypto ou n'importe quoi, au service de situations géopolitiques. On n'attend plus que les nations se mobilisent.
Mais regardez, il s'est passé un truc hyper intéressant cet été. Depuis que je suis arrivé en Ukraine, et je vous l'ai dit, je connais un peu le président Zelensky, je connais bien Mikhailo Fedorov, et depuis le début, je leur dis, les gars, faut aller en Silicon Valley. Zelensky m'a dit, j'attends que Biden m'invite officiellement, on va faire une visite d'État à Washington, et ensuite, merci de me filer un coup de main, et merci à tout le monde, parce que je suis pas le seul à avoir filé un coup de main, on est plein à s'être mobilisé sur ce truc-là. Et en août, c'est ça qui s'est passé. Zelensky, parce qu'il comprend l'importance du digital, il est allé à Washington, et de Washington, il est allé à San Francisco pour rencontrer Tim Cook, les patrons de Facebook. Il n'a pas rencontré Zuckerberg, mais il a rencontré les patrons de Facebook, les patrons de Google, etc., etc.
Et Facebook, qui au demeurant, soulignons-le, parce que souvent je suis assez critique avec Facebook, mais Facebook qui se mobilise et qui justement fait du watching quoi, en fait, sur la propagande russe sur Facebook et enlève des messages de propagande russe sur le réseau Facebook qui d'ailleurs au passage a été banni en fait en Russie hein.
Ouais, bah écoute, c'est pas une perte. De toute façon, Facebook en Russie, ils aimaient pas trop, donc ils avaient leur propre truc, ils avaient contact.
Et non, on peut pas dire que Facebook n'a rien fait. Souvent, on leur reproche de rien faire, et là, ça n'a pas été le cas. Hein.
Mais tu vois, pour moi, le fait que Zelensky ait pris le temps
d'aller créer ces liens, tu crois, évidemment.
Qu'est-ce qui s'est passé derrière et vous regardez les tweets et vous regardez les pages Facebook de Alex Bornikov, le ministre député, Anton Vorniakov qui travaille avec lui. Anton, qui est un bon pote, a envoyé un texte à Tim Cook, il le publie sur son Facebook en lui disant « Tim, on est dans la merde, on est attaqué ». Tim a répondu dans les 10 minutes.
Qu'est-ce qu'il a fait, il a envoyé des AirPods ?
Non, il a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» et la demande, c'était d'arrêter de vendre des iPhones en Russie. Bon, je ne sais pas si c'est le bon truc, ils vont acheter tous du Huawei, mais ce que je veux dire, c'est que… Enfin, Carlos, tu t'en souviens, tu y étais, tu l'as reçu, le président Hollande à San Francisco, tu lui avais fait un hug, tu l'as reçu à l'atelier d'ailleurs.
Je l'ai reçu dans les bras.
Ouais, tu l'as reçu dans tes bras. Mais tu vois l'importance en fait des relations que ces dirigeants qui ont compris le truc puissent avoir avec la Silicon Valley. Les Russes l'ont compris aussi, et ça peut nous amener aussi à une question intéressante, parce que les Russes ont investi massivement en Silicon Valley.
C'est mon prochain sujet et on voit déjà des réactions hein, dans la Silicon Valley. J'ai lu ce week-end beaucoup de choses. L'attaque soudaine de la Russie contre l'Ukraine fait qu'il y a pas mal de fondateurs de start-up qui sont mis à examiner un petit peu leur cap table et de plus près et qui se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup d'investisseurs russes dans leur start-up et notamment des fonds souverains russes. Et alors là, c'est aussi, hein, c'est un peu la douche froide ce matin, quand en fait tout le monde se réveille en se disant merde, pour qui je bosse quoi, grosso modo, ça se trouve, je suis peut-être du mauvais côté de la barrière. Et donc là, ça pose beaucoup de problèmes de moralité quand en fait auprès de fondateurs dans la Silicon Valley, Yann.
Non, mais après avoir critiqué l'Ouest, comme on les appelle, tu vois vraiment les gens se mobilisent. Et ils se mobilisent surtout contre l'État russe, hein, soyons clairs. Il ne faut pas oublier quand même que la Russie... moi, j'ai énormément de copains russes qui déplorent cette attaque ukrainienne. Hein.
Et il y a beaucoup de Russes aussi dans la Silicon Valley. Hein. Je parlais avec une fille encore ce week-end qui, elle, est d'origine russe. Enfin, elle n'est même pas d'origine russe. Elle est née en Russie. Elle a immigré dans la Silicon Valley. Elle me dit, j'ai honte J'ai juste honte et je sais que cette fille est quelqu'un de très bien et qui aujourd'hui, mettez-vous face à cette situation, un Emmanuel Macron qui pète un plomb et qui envahit la Belgique, quoi, en fait, et vous, vous êtes français à San Francisco, c'est horrible, quoi.
Mais ça, mais la mobilisation est incroyable, hein, pour continuer sur ça, c'est-à-dire que les gens regardent comment est-ce qu'ils peuvent faire du mal au régime russe et aux gens qui de l'entourage de Poutine. Et je pense que tu vois ça dans la tech, tu vois ça dans les sanctions, et tu vois ça dans les armes qui sont distribuées à l'Ukraine. Et je pense que du côté tech, t'as énormément de choses qui sont faites pour que la Russie soit punie. Et que ce soit Starlink qui mettent l'internet gratuit, t'as aussi Verizon, British Telecom qui font que les communications sont gratuites vers l'Ukraine. T'as aussi énormément de gens qui envoient quand même beaucoup d'argent. Les Ukrainiens peuvent aussi maintenant aller partout en Europe sans visa. Ça, c'est des choses qui c'est du jamais vu. Tu vois, donc après cette apathie de l'Ouest, tu as une sorte de violence de réaction dont même Poutine.
Très rapide, hein. En finalement quelques heures, et le monde entier se mobilise aujourd'hui derrière l'Ukraine. Et je pense que ça aussi, ça, il faut le montrer aux Ukrainiens, quoi. Ils ont besoin d'être certains que c'est le cas. Bon, bien évidemment, ils ont accès aux réseaux sociaux, donc ils le voient. Les impacts de cette guerre sur le monde de la tech, alors sur la bourse, étrangement, hein, mais on avait déjà vécu ça avec le début du Covid, au contraire même, la bourse a l'air d'accueillir plutôt favorablement la situation, les conflits. On voit là aussi une sorte de décalage entre la réalité de ce que les gens vivent et ce monde financier qui est complètement à l'ouest lui aussi, quoi, en fait. Yann, ça t'a surpris, ça, cette bourse qui rebondit vendredi?
Pour moi, on a eu des conversations très longues. Moi, j'investis dans les startups et dans l'immobilier. Je crois pas du tout en la bourse. Je crois que c'est une bulle. Tu vois, je pense qu'il y aurait la troisième guerre mondiale. La bourse continuera à monter parce que les gens continuent à mettre de l'argent dedans. C'est pas un baromètre de la santé du monde et de ce qui se passe en Ukraine ou en Europe ou ailleurs. Je veux dire, ça, c'est autre chose. Mais je pense que... non, je ne suis pas étonné. Je pense que la bourse, qu'on va continuer à monter jusqu'au jour où elle s'écroulera.
Elle va monter jusqu'au jour où elle va se rendre compte que c'est pas si génial que ça, parce que il y aura un impact sur l'industrie des semi-conducteurs, il est évident. D'ailleurs, tu parlais de l'intelligence au sens de l'information de la Maison Blanche. Elle avait déjà levé des drapeaux, hein, sur ce sujet-là dès le 11 février. J'ai recherché un petit peu sur Internet, où elle avait invité ces entreprises américaines à diversifier leur chaîne d'approvisionnement au cas où la Russie bloquerait l'accès à des matériaux clés comme le néon, le palladium. Il faut savoir que plus de 90% des approvisionnements américains en néon, c'est-à-dire c'est un matériau qu'on utilise pour créer des semi-conducteurs, proviennent d'Ukraine, et 35% du palladium américain provient de Russie. Donc on voit bien que ça va avoir un impact forcément sur la hausse, enfin il va y avoir un mouvement inflationniste, évidemment, sur les appareils électroniques, parce que je suppose que là, l'approvisionnement, il est fini, quoi. Dominique, tu confirmes
oui, l'importance évidemment. Évidemment, si tu veux, c'est très intéressant parce qu'en fait, là, les gens sont en train de découvrir un pays qu'ils ne connaissaient pas.
Personne
ne connaissait l'Ukraine. Moi, j'avais coutume de parler de l'Ukraine comme le best kept secret, tu sais, le secret le mieux gardé. Alors, j'en parlais pour la tech, 200 000 développeurs, 20 000 nouveaux développeurs qui rentrent sur le marché tous les ans, une vraie éducation, etc. Mais en fait, si on regarde l'Ukraine sur la partie ressources, n'oublions pas que l'Ukraine, c'est le plus grand pays d'Europe en termes de territoire. C'est une fois et demie la France. Et c'est un pays qui est des ressources extraordinaires, qui est d'une richesse extraordinaire, qui a un sol extraordinaire. Et donc, on va voir ça, on va voir une inflation très forte sur le prix de matières premières, comme le néon, comme dont tu parlais, le palladium, d'autres, parce que les richesses en minerais en Ukraine sont extrêmement fortes. Mais ne nous y trompons pas, là, l'Ukraine, c'est aussi le grenier à blé de l'Europe. C'est un des premiers producteurs de blé au monde, c'est un premier producteur de tournesol. d'école, tout un tas de choses dont on a tous vachement besoin. Ça, c'est mort. Cette année, il se passera rien. Faut qu'on soit clair. Les gens sont en guerre, les champs sont en train d'être détruits par les tanks. Il y aura pas de récolte, c'est une catastrophe. Donc, on va aussi voir le prix de matières premières comme le blé, le soja, etc. Monter très fort parce que
et le gaz.
Alors le gaz, il vient plutôt de Russie.
Les mêmes raisons, quoi.
Pour les mêmes raisons. Et donc, si tu veux, on va rentrer dans une spirale inflationniste. Moi, je crois qu'il faut qu'on se trompe pas de sujet. C'est pas une guerre contre l'Ukraine qui a été déclenchée. On est dans une guerre mondiale. Donc, je veux dire, on peut se le dire comme on veut. On peut dire qu'aujourd'hui, les puissances de l'Occident n'ont pas formellement déclaré la guerre en Russie, mais quand vous mettez des sanctions telles qu'elles sont, de fait, vous déclarez la guerre en Russie. Et je pense que Vladimir Poutine, dans son discours, dit « tout le monde me déclare la guerre ». Et je pense que on ne comprend pas aujourd'hui. On parle de l'Ukraine, le vrai sujet. Et je parle de l'Ukraine vraiment bien volontiers. C'est mon pays de cœur. Mais le vrai sujet, c'est qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une guerre mondiale qui va avoir des impacts sur nos économies. Aujourd'hui, on ne mesure pas, mais il faut voir ce que l'Ukraine contribue aux économies mondiales, y compris pour nous nourrir en Europe.
Oui, absolument. Je pense que je voulais terminer là-dessus et peut-être qu'on peut passer à ça. Mais avant j'avais ça et je voulais qu'on parle de ça. C'est en fait la Russie n'attaque pas l'Ukraine. Ils sont en train d'attaquer, et d'ailleurs ils ne sont pas seuls, il y a certainement la Chine avec eux derrière, ils attaquent le monde occidental et les États-Unis en particulier, parce que ce mouvement inflationniste que va créer cette guerre, on sait déjà que l'inflation est très haute aux États-Unis, on est à 7,5%, que c'est une façon de faire plier les États-Unis, qui, on le rappelle, sont dans un mouvement aussi de retrait de leurs troupes un petit peu partout, qui coûte énormément d'argent aussi aux États-Unis en ce moment, avec une économie et un système inflationniste très très fort. Donc il ne faut pas se tromper, l'Ukraine n'est qu'un prétexte, effectivement un terrain d'opération, mais la guerre, elle est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut l'imaginer. Et d'ailleurs, quand on regarde les sanctions qui sont aujourd'hui imposées sur la Russie, elles sont certes importantes, mais est-ce qu'elles auront véritablement un effet ? On peut se poser la question, parce que ces sanctions, il y a 10 ans, yes, elles avaient un poids considérable. Mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Pourquoi ? Parce que d'abord, la Russie, et on ne peut pas s'empêcher de penser à ce rendez-vous avant les Jeux Olympiques entre le président chinois et Vladimir Poutine, il y a une véritable collaboration aujourd'hui entre la Russie et la Chine, et qui offre d'ailleurs la possibilité d'échanges bilatéraux en dehors du système mondial et notamment du dollar américain. Donc, y a quand même deux puissances là qui... on peut tout couper, hein, mais la Chine et la Russie peuvent continuer à commercer et visiblement, ils le font. Et puis, il y a les cryptos. Parce que ces cryptos, on est en train de virer la Russie du système SWIFT, mais les cryptos, c'est un système décentralisé. Il sert aujourd'hui à l'Ukraine, mais il sert aussi à la Russie. Hein. Il ne faut pas se tromper non plus, quoi, en fait. Et ils sont capables d'utiliser le même système pour permettre des transactions financières en leur faveur. Donc, le monde, il a changé aussi. Et c'est vrai que quand on regarde les sanctions que le monde occidental met en place aujourd'hui, c'est bien, mais c'est des sanctions qui ont peut-être 10 ans de retard. Hein. Yann, une réaction par rapport à ça ?
Oui, oui. Surtout, je réagis toujours à mon sujet favori.
Sur la Chine. Je sais que...
la Chine qui, je pense que les sanctions sont... C'est du jamais vu, ce qu'ils ont imposé aux Russes. Ça a vraiment un impact très fort, mais il est dilué par le rôle de la Chine, qui par ailleurs, Dominique, est le premier partenaire économique de l'Ukraine, mais qui préfère jouer le jeu de la Russie pour être sûr que ses ambitions territoriales et diplomatiques avancent, ou non diplomatiques. Donc, tu vois, là, il y a vraiment... c'est pour ça, moi, dès que je fais du shopping, le made in China, j'essaye de ne pas le faire. Quoi.
Dominique, Yann, il a raison, la Chine, c'est un partenaire important de l'Ukraine ?
Alors, c'est très paradoxal pour moi. Yann a raison, la Chine est évidemment, et les chiffres le montrent, un partenaire clé en Ukraine, mais c'est un partenaire qui réussit pas très très bien en Ukraine, pour plein de raisons. J'ai eu la chance de recevoir Jack Ma et de passer une journée avec Jack Ma à Unit City.
Avant ou après son lavage de cerveau ?
Alors, juste avant. Et après, il s'est mis à faire de la calligraphie. Et donc, je ne sais pas quel impact j'ai eu, en fait, dans le fait que Jack Ma soit sérieusement resto-gradé. Je pense aucun, évidemment. Mais enfin, j'ai passé une journée avec Jack Ma et je lui ai demandé plein de trucs sur est-ce que, en termes de tech, vous faites du business vraiment avec. Et il m'a dit un truc qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, mais vous savez, l'Ukraine, c'est l'Europe. Vous utilisez Facebook ici, vous utilisez Twitter, vous utilisez Instagram. Nous, on n'a pas ça en Chine. Et donc, en fait, moi, Alibaba, je ne sais pas vraiment faire du business avec vous et je ne peux pas vraiment.
Parce que
je
n'ai pas WeChat, parce que je n'ai pas le système de paiement, etc.
Je ne peux pas vraiment faire du business avec vous. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un afflux d'investissements chinois. Moi, j'avais besoin d'investissements pour Unit City. J'ai rien vu. Rien n'est venu. Voilà, j'ai ce truc paradoxal, je vois les chiffres, je sais qu'en agriculture, sur les minerais, même en tech, hein, ils ont essayé de racheter une boîte d'aviation, un Motorsich, et puis le deal est tombé et les Américains ont fait pression. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on s'y trompe pas. Et les chiffres sont très clairs. Il y a un rapport passionnant de l'association des VC ukrainiens qui s'appelle UVCA, qui regarde d'où vient l'argent investi dans les startups en Ukraine. 90% de l'argent investi dans les startups en Ukraine vient des États-Unis.
Des États-Unis, bien sûr.
Des États-Unis. Ouais. 10% vient d'Ukraine et du reste du monde. Et bon, je pense que ceux qui ont très bien compris, et tu vois les dernières levées de fonds, les refaces, etc., c'est Andreessen Horowitz qui les a fait. Et donc, je pense que les Américains sur la tech, ils ont compris l'Ukraine. Les Français ont rien compris, rien. Je les vois pas. Je vois Ubisoft et Ubisoft, je les vois depuis longtemps. Et puis je vois Yann, mais Yann, il est de San Francisco, donc c'est quasiment plus un Français.
Ouais, c'est pratiquement un Ukrainien.
C'est pratiquement un Ukrainien.
Donc, pas, en fait.
Voilà. Mais si tu veux, les Français qui ont vu l'opportunité ukrainienne, ils sont, tu vois, on est 12.
Mais ce que tu dis est intéressant parce que ça prouverait aussi que Poutine a raison. C'est-à-dire que l'Ukraine est devenue un véritable avant-poste du monde occidental, trop proche de la Russie, que ce soit sur un plan technologique, économique. Sur le plan des infrastructures, de tout un tas de choses, et peut-être même militaires, puisqu'on sait que l'OTAN, et on sait que l'Ukraine voulait faire partie de l'OTAN. Donc, quelque part, la menace pour un mec comme Poutine, elle était effectivement réelle, parce que effectivement, l'Ukraine était en train de devenir un pays fortement occidentalisé, que ce soit dans tous ses rapports. Un autre impact, et je voudrais qu'on termine là-dessus, parce qu'il va être réel, c'est l'impact sur le nearshore. On sait que beaucoup, et d'ailleurs, quand tu disais 90% des fonds investis en Ukraine viennent des VC américains. Pourquoi ? Parce que beaucoup des entreprises et des startups américaines aussi ont délocalisé leur ingénierie en Ukraine, beaucoup plus qu'en Russie notamment. Il y a beaucoup, je regardais les chiffres, 70 à 100 000 ingénieurs travaillent directement pour des sociétés occidentales depuis l'Ukraine. Ces gens-là, comme vous le disiez, ils ne travaillent plus aujourd'hui. Donc, on a une workforce de presque 100 000 personnes qui est manquante pour les startups d'abord ukrainiennes, bien évidemment, mais pour les startups du monde entier. Yann, ces chiffres sont colossaux. Je pense que là aussi, the best secret, comme disait, qui aurait pensé qu'il y avait 100 000 personnes qui bossaient pour des startups occidentales en Ukraine ?
D'ailleurs, je crois qu'il y en a plus, hein.
Il y en a peut-être même plus ?
Ouais, c'est plutôt 200 000,
c'est les chiffres que j'ai trouvés,
à mon
mais
avis,
plus.
C'est plus que ça, ouais.
Ouais, c'est plus que ça.
C'est plus que ça.
Oui, ça, okay. C'est sûr. Mais bon, d'abord, les gens continuent à travailler, ce qui est remarquable, hein, d'ailleurs. Tu sais, je vais te dire.
Donc, non, mais j'avais mon développeur ce matin, il continue de pousser du code. Moi, je sais pas comment il fait, le mec, quoi, en fait. Mais il continue de me pousser du code. Je lui dis, mais ça va, quoi, en fait. Il me dit, non, mais je bosse parce que, sincèrement, j'ai besoin de me sortir la tête, quoi, en fait, quoi. Tu vois, je bosse pas comme je bossais avant, mais j'essaye de garder 4-5 heures tous les jours pour faire ça, quoi, en fait, pour me faire sortir de la guerre, quoi, grosso modo.
C'est la culture du travail ukrainienne. Hein. C'est d'ailleurs c'est très proche de la Silicon Valley, hein, en termes de vouloir travailler très dur. Mais effectivement, c'est une perte pour la Silicon Valley, et je pense qu'on va avoir du mal à remplacer ça. Hein. Moi, j'ai des équipes partout dans le monde. effectivement, les Ukrainiens sont les plus talentueux de ce que j'ai. Maintenant, ils s'adaptent, hein, ils bougent dans d'autres pays, etc., etc. Tu sais, au bout du compte, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pense que la plupart des gens, de ces gens-là, ils vont continuer à travailler pour Uncut, mais ils vont essayer de se protéger. Mais c'est une véritable perte, c'est un véritable risque pour les...
Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des prix significative? Justement parce qu'on sait qu'il y a une véritable guerre des talents et on manque de ressources mondialement, pas simplement et l'Ukraine fournissait une grande partie de ces talents-là. On sait qu'aujourd'hui les startups ont du mal à recruter. Ces événements-là vont créer une pression inflationniste aussi sur le prix du développeur.
Absolutely, like they say in America. Oui, d'ailleurs, tu sais, la hausse des développeurs, ça fait 3 ans que ça dure. Hein. D'ailleurs, nous, la raison principale pour laquelle on a commencé à diversifier nos sources de location de travail, c'est parce que les Ukrainiens commençaient les prix commençaient à être très très hauts. Et donc c'est pour ça qu'on a diversifié. Et d'ailleurs, ce qui nous sauve un peu aujourd'hui, hein, je veux dire, on a des locaux partout. Mais absolument. Tu vois, je veux dire, le prix des ingénieurs, il y aura aussi évidemment une inflation hein, de ce côté-là. Voilà.
Dominique, un point de vue là-dessus, est-ce que bon, les prix vont augmenter, ça c'est certain, mais comment est-ce que l'Ukraine va se remettre au travail? Est-ce qu'elle est capable de se remettre au travail? Combien de temps est-ce que tu penses que ça va prendre?
Alors, d'abord, je pense qu'il n'y a pas un écosystème, mais il y a deux écosystèmes qui vont beaucoup souffrir. C'est un, la Silicon Valley, mais c'est deux, ouais. Israël. Parce que il n'y a plus, et ça c'est des chiffres que je n'ai pas vérifié, mais c'est ce que plusieurs m'a beaucoup dit, il y a plus de 20 000 développeurs en Ukraine qui travaillent spécifiquement pour des startups israéliennes. Et ça, c'est pour des raisons historiques. La diaspora juive d'origine russe ukrainienne et en fait majoritairement ukrainienne est énorme en Israël. Et donc, il y a des liens très forts en fait entre les deux pays, ce qui d'ailleurs rend la position d'Israël sur le sujet un peu compliquée et assez incompréhensible. Mais peu importe. Et donc, deux écosystèmes qui sont des écosystèmes extrêmement avancés, qui sont les deux moteurs de l'économie digitale, hein, Israël et la Silicon Valley vont souffrir.
Sachant qu'Israël, c'est presque un satellite de la Silicon Valley. Hein.
Pratiquement.
À la limite, on pourrait même mettre Israël dans la Silicon Valley, tellement c'est proche. Quoi.
Leur dis pas, ils vont pas être contents, mais c'est d'accord. Bon, donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, je veux dire, c'est aussi une question d'hommes. Ces hommes et ces femmes qui sont développeurs, ils vont pas du jour au lendemain mourir. Ils vont avoir besoin de travailler, ils vont recommencer à travailler, ils vont pas disparaître. En tout cas, je le souhaite pas et je le pense pas. Donc ça se réinventera. La nature a horreur du vide. J'espère pour eux. J'espère pour nous, enfin j'espère pour moi, j'espère pour toi Yann, qu'on pourra se remettre véritablement au travail bientôt, j'espère.
Mais il faut s'attendre à un fog, moi je lis des trucs, les 6 à 9 prochains mois vont être très très compliqués sur ce sujet de l'ingénierie, Yann.
Ça dépend de ce qui va se passer avec Monsieur Poutine, tu vois, je veux dire, si tu peux avoir aussi un scénario à la coréenne, hein, où t'as une espèce de paix, où l'Ukraine est coupée en deux, t'as plein de scénarios. S'il continue sa guerre, il y a aucun scénario sur lequel ce pays se remet. Parce que de toute façon, la puissance russe est beaucoup plus grande que la résistance ukrainienne. Donc tu vois, je veux dire, ça dépend vraiment de comment la guerre va se terminer. Et si elle se termine vite, je veux dire, plus tu attends, plus il y aura de pertes russes et les Ukrainiens seront aplatis par les bombes des Russes. C'est ce qui se passe déjà à Kharkov. Tu vois, je veux dire, et c'est pour ça que c'est encore plus important que l'Ouest donne des armes aux Ukrainiens. Mais je pense qu'il y a un scénario où l'Ukraine ne se remet pas de cette attaque.
Bon, on ne va pas le souhaiter, ce scénario-là. On arrive un peu au terme de cette émission. On va faire en sorte d'aider l'Ukraine. Je pense que le monde entier aujourd'hui est mobilisé. Silicon Carnet aussi se mobilise. Allez acheter ce NFT sur uncut.fm et aider directement en crypto le gouvernement ukrainien. C'est pour la bonne cause. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode, j'espère, normal. Où on ne parlera pas forcément de tout ça, mais je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler. En attendant, comment est-ce qu'on dit en Ukraine, Dominique ?
Slava Ukraina.
Slava Ukraina.
Slava Ukraina.
Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, écoute, on souhaite plein courage à tous nos amis ukrainiens, à nos collègues, sur place. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Hasta luego, amigos!